Bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudin, je suis coach personnel et professionnel et je suis ravie de vous accueillir ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que l'objectif de ce podcast est de partager avec vous des histoires de vie et des outils pratiques de développement personnel et professionnel. L'objectif est de vous inspirer pour vous permettre d'apprendre à donner le meilleur de vous-même, à révéler votre potentiel et à passer à l'action. Je vous rappelle que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix, le partager ou encore, le plus important, est de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis sur iTunes. J'ai rencontré dernièrement beaucoup d'entrepreneurs et ce que je vous propose est de commencer aujourd'hui une mini-série de 3 épisodes qui seront diffusés vraiment de manière consécutive, c'est-à-dire 3 lundis de suite. Et pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend, j'avais juste envie pour une fois de vous annoncer à l'avance les invités que vous allez pouvoir écouter. Lundi prochain, je vous propose de partir à la rencontre d'Élise Dechâne. Elle est vigneronne au Rissé, dans le sud-est de Troyes. Elle nous raconte sa première vie professionnelle, qui a duré 15 ans, avant de devenir vigneronne et de faire aujourd'hui du champagne bio. Elle nous explique tout le travail personnel et professionnel que cette reconversion a demandé. Le lundi suivant, je vous propose de faire connaissance avec Sylviane Bertaki. Sylviane est à la tête aujourd'hui d'un empire dans la région champenoise, les réceptions Bertaki, qui se déclinent en plusieurs activités, traiteurs, restaurants et organisation d'événements divers et variés. Elle nous raconte tout le chemin parcouru en partant de rien pour en arriver là aujourd'hui. Et enfin, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir d'aller à la rencontre d'un grand chef cuisinier parisien, Monsieur Arnaud Nicolas. Vous allez entendre en début d'interview tout son palmarès, qui est assez impressionnant, je l'avoue. Il a eu la gentillesse de m'accueillir dans l'un de ses restaurants, à côté des Champs-Élysées, et d'ailleurs j'ai quelques précisions à vous faire à ce sujet. L'interview a donc été réalisée au boudoir, son restaurant qui se trouve rue des Colisées dans le 8e arrondissement de Paris, un lundi matin, alors même que ses équipes préparent le service du midi. Nous sommes donc au cœur du restaurant et vous allez parfois entendre quelques bruits inhérents à cet environnement. Je m'en excuse par avance, mais j'ai volontairement voulu laisser ces moments au montage parce qu'ils sont tout simplement vrais. Enfin, pour resituer dans le contexte également, cette interview a été enregistrée le lundi matin suivant les émeutes du samedi 16 mars. Il y a donc pas mal de bruit dans les rues, notamment parce que beaucoup de dégâts à réparer. Vous allez entendre à un moment donné un camion déboueur. Mais il m'en aurait fallu plus pour me priver de cet échange et gâcher cette rencontre. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie du chef Arnaud Nicolas et je vous retrouve juste après cette interview. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ? Le retour de vacances se passe bien ?
Oui, un peu comme un retour de vacances.
Comme un retour de vacances.
Voilà. On ne sait plus trop si on sait travailler, on revient.
Il faut reprendre ses repères.
Exactement. Okay.
En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Donc, on se trouve au boudoir.
Exactement. Un de mes deux établissements.
Mm-hmm. Tout vous à fait. Vous expliquer donc, ça. On est juste à côté des Champs-Élysées.
Tout à fait.
Dans cet établissement qui est vraiment magnifique. Vous allez nous expliquer toute votre histoire.
Je vous expliquerai tout ça.
Alors évidemment, moi j'ai fait quelques recherches avant d'arriver ici pour préparer l'interview. Le palmarès est assez impressionnant, j'ai envie de dire, parce que j'espère ne pas en oublier, vous allez compléter.
Je vous dirai.
Meilleur ouvrier de France, charcutier.
C'est
alors
ça.
C'était en 2004.
C'est fin 2003 les épreuves, mais c'est la promotion 2004.
D'accord. Donc à l'époque, vous aviez 25 ans.
C'est ça.
Et ouais. Vous êtes l'unique dans la profession à avoir été meilleur ouvrier de France si jeune.
Non, on est deux ou trois. Enfin, bon, bref, c'est très jeune. Donc,
en tout cas, à ce moment-là, vous étiez
Ça a été un des plus jeunes.
D'accord. Aujourd'hui, vous êtes président, c'est ça, du concours
Je suis président du concours. J'ai organisé la dernière session. Et tout
d'accord,
à fait.
Ok. J'ai lu sur vous que vous étiez un chef charcutier haute couture.
Oui,
ça
fait partie des noms qu'on m'a attribués, ouais, tout à fait.
C'est joliment dit, je trouve. J'ai lu aussi que vous relookiez la charcuterie.
Oui, c'est ça.
Vous avez créé un concept original de restaurant boutique à emporter, c'est ça ? Donc
C'est pas au boudoir, ça, c'est l'autre restaurant qui est de l'autre côté de la Seine,
ouais.
Donc avenue de la Bourdonnais. où la particularité de cet établissement, c'est qu'il a, donc c'est un restaurant à part entière, mais quand vous rentrez dans le restaurant, vous avez un petit coin boutique où vous pouvez acheter des produits.
C'est ça.
Vous n'êtes pas obligé de consommer au restaurant pour acheter les produits et vice versa.
Et quand bien même, on peut aussi consommer et se dire c'était délicieux et je repars avec des produits pour ce soir.
Exactement, chose qui arrive régulièrement.
Ok, vous travaillez avec des grands, je continue mon palmarès, hein. Vous travaillez avec les plus grands, alors moi j'ai noté Alain Ducasse, mais vous allez m'en citer certainement d'autres pendant l'interview. C'est vous qui avez servi au dernier dîner présidentiel avec Emmanuel Macron et Donald Trump, votre fameux
pâté en croûte
oui, hein, oui. Qui est vraiment votre marque de fabrique au
gourmand.
Vous avez sorti un livre fin 2018, en fin d'année dernière, le grand livre de la charcuterie. J'ai même lu d'ailleurs dans un article que vous êtes un surdoué de la charcuterie. Vous l'aviez déjà entendu ça?
J'ai entendu celui-ci aussi. Oui.
Bon, ouais. Voilà, enfin, vous allez certainement m'en raconter beaucoup d'autres. Vraiment un beau palmarès. Moi, j'avoue que j'ai eu l'occasion de goûter hein, certains de vos produits. Et vraiment, quel plaisir. J'ai vraiment redécouvert la charcuterie et j'ai vraiment changé de vision,
ouais,
par rapport à l'image.
C'est un petit peu l'objectif que je me suis fixé.
Bon, en tout cas, bon, là, moi, j'ai assez parlé, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous raconter vraiment qui vous êtes, d'où vous venez, en fait, et quelle est votre histoire?
Alors, moi, mon histoire, en fait, a démarré fin de troisième. Ce fameux stage qu'on devait faire en troisième.
Le stage d'une semaine de découverte.
Exactement, c'était trois jours, je me rappelle bien.
Trois jours.
En immersion en entreprise. J'étais plutôt feignant, pas trop motivé, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire.
À ce moment-là, vous ne saviez pas?
Ah non.
La cuisine s'était éloignée de vous à ce moment-là?
Je ne savais pas trop, je devais faire un stage, dans quoi? J'aimais bien être avec ma mère, mon père, un peu en cuisine, mais sans plus, c'était pas. Bon, bref, j'étais pas motivé par. J'avais pas une idée bien précise.
Est-ce qu'eux étaient déjà dans ce domaine-là ou pas du tout? D'accord.
Je suis vraiment le premier de la famille, en fait.
D'accord.
Je dis le premier de la famille parce que vous allez comprendre après.
Okay.
Et donc, en fait, je suis. Ma tante, qui était coiffeuse, avait comme cliente Madame Perrault, qui était la patronne de la charcuterie traiteur à Enghien-les-Bains, une grosse, grosse boutique. Mm-hmm. Monsieur Perrault, meilleur ouvrier de France en charcuterie. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'ai fait mon stage là-bas.
D'accord.
Trois jours, je me suis dit, bon, ok, je vais voir. Et puis, ça m'a plu. Alors, je ne sais pas si c'est le métier qui m'a plu ou si c'est le travail, le monde du travail en général. Ça restera une de mes grandes questions et je pense que ça a influencé un petit peu après mes décisions et la direction que j'ai prise dans ma carrière. Et en fait, j'ai fait trois jours, j'ai refait une semaine au mois de février pendant mes vacances, dans le mois d'avril pendant mes vacances. Donc là, c'était pas du tout avec l'école, hein, c'était parce que ça m'avait plu. Mm-hmm. Et puis j'ai refait un mois au mois de juillet.
D'été.
Et mi-juillet, je me suis inscrit à l'école, j'ai été chercher mes couteaux, mon matériel avec mon futur patron d'apprentissage qui était Bernard Perrault. Et l'histoire était lancée.
D'accord.
Donc,
Depuis, vous ne vous êtes jamais arrêté.
Et ça fait 25 ans.
D'accord.
Voilà, exactement. Et là, l'histoire a démarré par un CAP, BEP, mention complémentaire, brevet professionnel. Donc, toutes ces étapes qui ont été échelonnées en même temps avec des concours. Donc, j'ai commencé très tôt. J'ai eu la chance de tomber dans une maison qui m'a tenue par un meilleur ouvrier de France. Donc, ça, naturellement, ça se transmet. Mm-hmm. Ça se transmet. Et donc, on a naturellement envie de faire des concours en plus de son travail.
D'accord.
Au quotidien. Donc, j'ai fait le concours des meilleurs apprentis de France, j'ai fait le concours d'Arpajon, j'ai fait le concours de Mortagne au Clair, j'ai fait le concours du meilleur jeune chef. Et donc, tous ces concours.
C'était vraiment volontaire pour vous de faire ces concours? On vous a pas imposé?
Non, je pense que quand je suis rentré dans ce métier, j'ai eu envie de prouver des choses. Je n'étais pas spécialement un enfant très. Je n'étais pas mauvais à l'école, je n'étais pas doué. Comme je disais tout à l'heure, je faisais juste le strict minimum.
Ce qu'il fallait.
Pas plus, pas moins. Mais là, ça a été une révélation. Mais une révélation peut-être plus d'ordre général, c'est-à-dire le travail me plaît.
En fait, ce que je veux, c'est travailler.
Ouais.
C'est pas être à l'école, c'est travailler.
Si j'avais
c'était
fait
pas une révélation par rapport à la charcuterie ou...
Dans un premier temps, je pense pas.
Ou la cuisine de manière générale.
Je pense que si j'avais fait de la cuisine, je serais cuisinier. Si j'avais fait de la pâtisserie, je serais pâtissier aujourd'hui.
Coiffeur, vous seriez coiffeur.
Ouais, je pense.
C'était le fait de travailler.
Tout à fait.
D'être dans la vraie vie.
Et ça, c'est ce qui m'a vraiment plu. Parce que la première année, les premiers moments de mon apprentissage, Enfin, je passais mes journées dans le fond d'une cour à éplucher des carottes, des pommes de terre, de l'ail, des oignons et faire la vaisselle toute l'après-midi. Fallait se projeter pour trouver quand même quelque chose qui... Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Hein.
Vous arriviez à l'époque à vous projeter ?
Non, je faisais ce qu'on me disait. J'y allais, j'avais un objectif, j'avais envie de... Je me projetais avec mes chefs que j'avais en face de moi, je les idéalisais tout simplement. Ça veut dire que moi j'ai mon chef, pas Bernard Perrault que j'avais directement, mais mon chef de laboratoire, voilà, je l'avais mis sur un piédestal. Donc mon objectif c'était de faire en sorte qu'il soit toujours content de moi et puis de gravir comme ça doucement les échelons.
Donc, pas forcément d'en arriver là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Ah à non, ce moment-là,
j'étais à des années-lumière de tout ça. Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, à cette époque-là, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de prouver. J'étais dans un mode un peu challenge. Mmh. Je crois que j'ai été formaté très rapidement dans l'esprit concours. Donc, tout mon cursus professionnel et les 10-12 premières années, c'est-à-dire de 15 ans jusqu'à 25 ans, là où j'ai eu le concours de meilleur ouvrier de France, ça a été un concours pendant 10 ans, quoi, je crois.
Ouais, vous n'avez jamais arrêté. Dès qu'il y en avait un de fini, il y en avait un autre à venir. Ouais, d'accord. Ouais. Du coup, combien de temps il s'est passé entre cette révélation, où, après ce stage de 3e et où vous lancez, et le concours de meilleur ouvrier de France? Il s'est passé combien de temps? 10 ans.
Ouais. Bah oui, je commençais à 15 ans, j'ai eu à 25 ans.
Donc, d'accord, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça à peu près. On est bon dans les comptes, ça va. Ok, et est-ce qu'à un moment donné, parce que là vous dites j'ai eu une révélation par rapport au monde du travail, est-ce qu'à un moment donné il y a eu une révélation sur la charcuterie précisément?
Alors en fait la charcuterie, dans un premier temps, j'en ai un petit peu souffert. Parce que c'est un métier, en fait, ce métier-là m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup donné, je me suis épanoui. Mais c'est un métier que je n'ai jamais pu valoriser à l'extérieur de ma profession. Je m'explique. C'est que c'est un métier qui n'était absolument pas porteur. Vous sortiez, tu fais quoi comme métier ou tu fais quoi dans ta vie? Je suis charcutier. Là, tout de suite, l'image des gens était très, très dure à accepter. Mm-hmm. Et ça, j'en ai quand même souffert. D'accord. Très clairement. J'en ai souffert parce que moi, je m'épanouissais dans mon boulot. Donc, j'en ai souffert. Je trouvais ça dommage, vraiment dommage. J'en ai souffert et donc en fait j'ai voulu, mon objectif à un moment donné, je me suis dit voilà, si un jour je peux faire évoluer un petit peu l'image de mon métier, je le ferai et ça a été un de mes objectifs et je crois que je l'ai toujours gardé et c'est ça en fait un petit peu l'histoire de ma vie, c'est que j'ai commencé un métier comme on me l'a appris, avec ses défauts, ses qualités. Et aujourd'hui, je ne cherche pas à tout transformer, mais je cherche à le faire évoluer de façon à ce que cette image ne soit pas aussi, aussi compliquée à supporter.
Aussi péjorative, en fait.
Exactement, parce qu'on a, on a un beau métier, c'est un vrai savoir-faire. C'est un métier qui est très, très, très complémentaire avec d'autres métiers et qui demande beaucoup de techniques. On a des bases en pâtisserie, en charcuterie, bien sûr, en cuisine. Donc c'est un métier qui est très large.
Très large et très complet.
Et il n'est absolument pas, pour moi, à sa place dans le monde de la gastronomie.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, je ne suis pas un révolutionnaire, je suis tout simplement quelqu'un qui cherche à faire tourner son business tout en donnant une image de sa profession beaucoup plus noble, en tout cas, que ce qu'on a pu, promouvoir jusqu'à maintenant.
Comment vous expliquez le fait d'avoir eu cette envie-là, à un moment donné, de dire, bon, ok, aujourd'hui, globalement, l'image du métier de charcutier, elle n'est pas très positive, et moi, j'ai envie d'en faire autre chose, c'est ça, hein, vous êtes en train de dire, j'ai envie d'en faire autre chose pour lui donner, comme vous venez de le dire, une image un peu plus noble. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit ça? Parce que vous auriez très bien aussi pu choisir l'option, bon, en fait, du coup, je laisse tomber parce que cette image-là ne me convient pas et je fais autre chose.
Bien sûr. Je pense que ça, c'est arrivé juste après le concours des meilleurs ouvriers de France. 25 ans, c'est très jeune. À 25 ans, vous arrivez un petit peu en haut de la pyramide avec un titre, avec... vous n'êtes pas complètement... en fait, moi, quand j'ai passé ce concours, pour moi, contrairement à tous les autres candidats qu'il y avait à côté de moi, principalement, j'avais pas de pression. J'avais 25 ans, j'avais rien à perdre. Si je n'étais pas cette fois-ci, ça pouvait être la fois d'après. Ouais, okay. Donc en fait, j'y étais en
c'était
mode...
C'était le début
j'ai rien à perdre.
Ouais, d'accord.
Et tout s'est bien passé. Parce qu'il y a ce facteur chance qui a fait, il y a le travail, bien sûr. Mais tout était réuni. Moi, j'avais les étoiles qui étaient toutes les planètes étaient alignées ce jour-là pour moi. Mmh. Donc je remets pas en question mon titre. Je dis simplement que pour moi, c'était très clair. Je me suis retrouvé après ce concours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai fait de la charcuterie.
Et alors, vous avez fait quoi du coup?
C'est qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis cherché un petit peu. À cette époque-là, j'étais à Châlons-Champagne.
Ah, très bien.
Quand je l'ai passé.
Je connais très bien, c'est vrai.
À Châlons-Champagne, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans, 4 ans chez monsieur Jean-François Deport, mm-hmm. qui va être là tout à l'heure. Mais...
D'accord.
Avec qui j'ai travaillé. C'est lui qui m'a préparé à ce concours. Et en fait, je me suis posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu ouvrir une boutique, mais je ne me retrouvais pas dans la boutique. Je pense que le cheminement le plus simple, c'était... Tu as ton concours, aujourd'hui tu trouves des partenaires et puis tu t'installes. Voilà.
C'est la voie la plus classique quand c'était, on en arrive
exactement.
À ce stade-là.
Et donc je m'installais et j'aurais fait, je pense, naturellement, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Mmh.
Vous auriez reproduit le schéma de ce que vous aviez appris et vu en fait, dans votre parcours.
Mais en fait, je ne voulais pas ça. Donc ça, c'était le chemin, on va dire, le plus court. Et je ne voulais pas ça parce que...
Qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas ça?
Parce que je ne me retrouvais pas dans certaines choses de mon métier. Il y a des choses que sur lesquelles je n'étais pas d'accord.
Qui n'étaient pas en phase avec vous-même. Voilà, et vous en étiez rendu compte à 25 ans. C'est un âge où parfois on ne sait pas encore...
En fait, je me cherchais à ce moment-là.
Voilà, on se cherche.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais ce qu'il y avait. Mais à cette époque-là, je ne savais pas réellement. Okay. Je savais que je ne voulais pas faire ça, mais c'était pas conscient. Complètement clair.
Ouais, vous conscientisez pas ce processus
Exactement.
D'être en phase avec vous-même. Aujourd'hui, vous arrivez à le dire, mais à l'époque, c'était un ressenti.
Exactement. Et en fait, j'avais besoin de faire de la cuisine. Ça veut dire que ce métier qui était... ce métier qui était... à des années-lumière au niveau de la médiatisation de notre métier, je me suis dit, écoute, t'as 25 ans, t'es meilleur ouvrier de France, j'ai pas peur du travail, j'ai pas peur d'être jugé, je vais aller faire un tour en cuisine, voir ce qui se passe, voir si vraiment c'est un métier qui est vraiment au-dessus, entre guillemets, quoi. Et puis j'en avais besoin, je pense, de compléter ma formation de charcutier.
Alors d'ailleurs, cette formation, du coup, elle commence par quoi? C'est quoi votre première formation initiale?
En fait, après, je fais, en fait, une fois que je suis meilleur ouvrier de France, que je pars de chez Jean-François Deport, je vais chez le nôtre.
D'accord. Wow.
Transition. Je donne des cours de charcuterie, de cuisine. Je voyage un peu partout dans le monde. Et là, donc, je commence à voir un petit peu la cuisine. Ça dure 2 ans. Je fais de la formation, mais la formation, c'est pas quelque chose qui me convient. Mm-hmm. En tout cas, pas à cette époque-là. Parce que moi je suis un garçon du terrain, je n'ai pas spécialement la bonne pédagogie. Mm-hmm. Et puis
c'est un vrai métier. Hein.
Ouais. Et puis au final ça me lasse un petit peu.
Donc j'ai besoin plus d'être sur le terrain, de créer, de produire.
Exactement.
Plutôt que de transmettre.
Et donc je fais ça pendant 1 an et demi, 2 ans, et après pour des raisons personnelles. On a un objectif de partir dans le sud de la France. Mmh. Et donc là, j'appelle un copain restaurateur. Je lui dis, voilà, il faudrait que je trouve quelque chose. Il me dit, écoute, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Franck Cherouti, le chef exécutif de l'Hôtel de Paris à Monaco, l'institution d'Alain Ducasse, là où M. Ducasse a commencé et est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Donc ni plus ni moins que belle.
Voilà. Et donc là, je mets vraiment un pied. Je vais rencontrer vraiment la personne qui a été aux côtés d'Alain Ducasse, qui a validé cette cuisine méditerranéenne. Donc là, je mets un pied vraiment dans la cuisine, dans la haute gastronomie française.
Dans un autre monde là.
Donc là, je rencontre. Et cet homme-là me dit, écoute Arnaud, moi je cherche quelqu'un pour gérer un peu la partie événementielle, banquet. Parce qu'en fait, dans l'Hôtel de Paris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs restaurants, dont le restaurant 3 étoiles Michelin, où lui était chef exécutif depuis des années. Et en fait, depuis peu, il avait été promu chef de l'Hôtel de Paris. Donc en fait, il avait besoin d'avoir des seconds qui étaient spécialisés dans certains secteurs. Mmh. Donc moi, je ne suis pas venu pour gérer le 3 étoiles, hein, ce n'était pas du tout mon niveau. Mais par contre, sur la partie événementielle, banquet, sur toutes ces choses-là, avec mon expérience du traiteur, en fait, pour lui, c'était intéressant d'avoir quelqu'un avec une vision un petit peu différente. Donc voilà pourquoi je suis rentré dans cet hôtel. Et puis, est née avec cette personne-là une complicité extraordinaire.
Mmh. Moi, c'est une rencontre vraiment significative dans votre vie.
Ah oui. Moi, c'est comme je dis à mes gars, je fais un jour ou l'autre, vous trouverez votre identité culinaire. Mmh. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez développer votre concept, votre restaurant. Mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que moi, il m'a fait, je ne vais pas dire qu'il m'a fait pleurer devant des courgettes, mais pas loin. Mmh. On allait sur les marchés, on allait à Ventimiglia. Il allait me faire découvrir les produits italiens. Enfin, j'ai adoré cette période et j'ai appris énormément. J'étais une éponge à ce moment-là. Mmh. Donc, bien sûr, là, il n'y a plus de meilleur ouvrier de France, rien du tout. Hein.
Ah, c'est,
j'avais même plus ma veste. J'étais sous-chef de Franck Cerutti. Et le matin.
Et là, on prend juste tout ce qu'il y a à prendre.
Là, là, c'est incroyable ce qui m'arrive, quoi, en fait. Parce que là, je découvre des choses. Et c'est de là, en fait, que en même temps. Je rumine un petit peu ma charcuterie et ma charcuterie évolue pendant toute cette période.
Qui a duré du coup combien de temps ?
Deux ans et demi. Et en fait, clairement, moi j'étais bien là-bas. Enfin, j'étais bien. J'avais une vie qui était. Au bout de deux ans, j'avais une vie qui était. Donc ça va vite quand même. Hein, moi, faut que ça. au bout de deux ans, j'avais ma vie qui était tracée. J'étais à l'hôtel de Paris. En fait, au bout de deux ans, là-bas, on vous signe un CDI. Et pendant deux ans, vous êtes en CDD. Mmh. Le jour où je devais signer mon CDI, je donnais ma démission.
D'accord.
Chose qu'ils n'avaient jamais vue. Parce qu'une fois que vous avez signé un CDI, là-bas, c'est comme dans les grandes institutions françaises, ouais. Vous êtes quand même plutôt au chaud,
on va dire. C'est la voie royale. Mmh.
Et puis, vous êtes à Monaco, il y a des avantages et tout.
Ouais, il y a plus désagréable quand même.
Voilà, je vivais à Nice. L'histoire était belle. Hein. Et en fait,
mais alors, qu'est-ce qui
je m'ennuyais.
Je m'ennuyais. Mais à quel point de vue vous ennuyez ?
Professionnellement, j'avais peur de rentrer dans une routine qui allait m'absorber et qui allait. Il me manquait quelque chose. Ça veut dire que là, j'étais parti sur de la cuisine, je faisais plus de charcuterie. Il manquait quelque chose à ma vie. Je savais que là où j'étais, je pouvais avoir une certaine tranquillité. Aujourd'hui.
Mais finalement, c'était pas ça que vous recherchiez à ce moment-là, la tranquillité.
Non.
C'est pas votre.
Oui, et aujourd'hui, en fait. J'avais besoin de faire des choses, j'avais besoin de valider des choses, j'avais besoin de remettre un petit peu, je crois que le moment était arrivé, de remettre la charcuterie au centre de ma cuisine.
D'accord.
Et en fait,
donc retour à Paris ?
Ouais, donc j'ai démissionné de là-bas, j'avais pas de travail à Paris, j'ai déménagé, et sur le trajet, j'ai appelé des gens, il y avait 12 heures, donc ça va. En leur disant, voilà, bon, j'ai arrêté, là, je ne sais pas ce que je fais demain, mais on y va. Et j'ai rencontré des gens, et c'est de là, en fait, j'ai revu, donc pareil, hein, des contacts avec des amis restaurateurs, et là, j'ai rencontré Stéphane, qui est mon associé aujourd'hui.
Votre associé aujourd'hui.
Et Stéphane...
Vous connaissiez déjà avant ?
Non,
c'est par connaissance interposée
Et lui n'était pas du tout dans la profession. Donc, en fait, on a ouvert le boudoir un an après... Je suis remonté sur Paris. On a ouvert le boudoir un an après. Lui n'était pas du métier.
Il était de quel métier ?
Lui faisait des. Il était exactement. Il était sur des ventes de produits, logiciels, des choses comme
d'accord.
ça.
Enfin, bon, bref. Ok. Vraiment rien à voir.
Absolument rien.
Rien à voir avec avec la restauration.
Rien du tout, rien d'accord. du tout. Par contre, lui voulait vraiment changer de vie.
Ok.
Donc, c'était vraiment son objectif. Donc il a, on est parti sur ce projet complètement fou. Donc moi qui n'ai aucune expérience, entre guillemets, de restaurateur, oui j'ai fait de la cuisine avec Franck Cerutti, oui j'ai des compétences, oui ça c'est sûr.
Mais là il y a une casquette chef d'entreprise quand on a son restaurant.
Donc chef d'entreprise, lui qui va être en salle, n'a jamais tenu une assiette de sa vie. Bon, on s'entoure un minimum quand même.
De qui ?
Voilà, donc et là j'ai rien dit. Donc en fait j'ai un très bon copain avec qui j'étais à Monaco, Benoît, qui vient avec nous et qui va gérer tout l'achat des vins, qui lui est sommelier de métier.
D'accord.
Donc on l'embauche. Et puis, donc on trouve le boudoir. Et le boudoir, en fait, a la particularité d'être un restaurant dans lequel il y a une cuisine, mais également un petit laboratoire de charcuterie.
Mmh.
Donc là, j'arrive avec un concept bien défini, promouvoir la charcuterie à travers un restaurant.
Et donc, là, c'est aussi un alignement de planète pour trouver un, à ce moment-là un lieu adapté à l'activité dans un endroit. Enfin, vous êtes juste à côté de la plus belle avenue du monde.
Bon, on a visité quand même 80 établissements.
Ok.
On l'a cherché un petit peu quand
même. D'accord, c'est pas arrivé par hasard.
Non. Et celui-ci, en fait, quand on l'a trouvé, voilà, j'ai appelé. Pour la petite histoire, j'ai mon cousin. Donc moi, j'ai emmené mon cousin dans ce métier. On a 5 ans d'écart.
Qui est lui-même devenu le meilleur ouvrier de France aussi.
J'y arrive.
C'est ça.
et donc en fait, il était, lui, à cette époque-là, il était à Besançon. Et voilà, il avait sa petite vie, mais je pense qu'il avait besoin d'autre chose. Il avait besoin de voir autre chose. Et je lui ai dit, écoute Julien, voilà ce que je te propose. Tu viens avec moi. Tu me cales, on fait l'ouverture ensemble, tu me cales tous les produits. Je savais qu'il allait m'apporter une certaine régularité dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas être sur la production et sur la cuisine en même temps. Mm-hmm. Donc j'ai pris quelqu'un avec moi qui allait m'apporter. Donc j'avais Benoît en salle, j'avais Stéphane en salle, j'avais Julien avec moi derrière. Et donc là, j'apportais une certaine stabilité à mon concept. Parce que là, on parle vraiment de concept. Ouais. Et donc, en fait, Julien vient avec moi et je lui dis, écoute, tu viens avec moi et puis moi, je te fais passer tes concours et échange de mon procédé.
Quoi. Ok. Voilà. Je te forme, je t'accompagne, tu passes tes concours. Alors, je fais juste un petit retour en arrière parce que là, j'ai deux questions qui me viennent avec ce que vous venez de me raconter. La première, c'est votre associé Stéphane, donc vous ne le connaissiez pas. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que pour vous, il y a eu un coup de cœur ? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous associer ? Parce que c'est pas rien quand même de s'associer, c'est presque un mariage. Enfin, je veux dire, on s'associe pas avec n'importe qui. Qu'est-ce qui fait que vous avez su que vous vouliez vous associer avec lui ?
Bah, c'est le ressenti. Ça veut dire que c'est la personne à ce moment-là que j'ai jugé. C'est pas les compétences entre guillemets. Mais lui, c'est pareil.
C'est plus une personnalité, c'est ça ? Des valeurs
C'est des valeurs, d'accord. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a bu des bières, on a parlé de la vie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et vous étiez en phase.
Ouais. Et Stéphane, c'est quelqu'un avec ses défauts et ses qualités comme moi, en qui j'aurais toujours confiance. Ça veut dire que si aujourd'hui Stéphane me trahit, je pense que je n'ai plus confiance en personne.
D'accord. Alors là, s'il nous entend,
ah oui, mais
il va avoir un moment donné.
Non, mais c'est vrai. C'est que cette personne-là. Après, ça ne veut pas dire que notre vie est obligatoirement liée.
Oui, bien sûr.
Ça veut dire que si demain on doit avoir des projets différents et qu'on se sépare, on aura posé les choses, on aura fait le point et ce sera clair. Ce ne sera pas du jour au lendemain, il va s'en aller en me disant, écoute, c'est fini. Salut, je m'en vais.
Ouais,
non, ça se passera jamais comme ça. Oui. Là, je suis parti pendant une semaine, je me suis pas posé la question à savoir. Et lui, c'est pareil de l'autre côté.
D'accord. Parce que c'est vraiment une question qu'on me pose souvent quand j'accompagne des gens qui sont des porteurs de projets ou des jeunes entrepreneurs. Comment on s'associe ? Enfin, c'est une vraie question parce qu'on sait à quel point on peut avoir le plus beau projet, le plus beau concept, etc. Si on s'associe pas avec la bonne personne, ça peut aussi.
Moi, je pense qu'il faut s'associer avec des gens qui correspondent, qui nous correspondent.
Il faut boire des bières et parler de la vie.
Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est vrai, mais ça, c'est la réalité.
Oui, c'est la vraie vie.
Parce qu'après, vous avez l'argent qui rentre dans tout ça, vous avez les pressions. Moi, je pense qu'avec Stéphane, on aurait pu se taper dessus des dizaines de fois. Si à un moment donné, il n'y a pas une certaine complicité et une certaine philosophie de vie. C'est pas qu'une question d'argent, parce que l'argent, c'est une source de problèmes. Moi aujourd'hui, mes concepts ne sont pas tournés autour de l'argent, parce qu'on a la même façon de voir les choses avec Stéphane, c'est-à-dire qu'on est plus dans.
C'est fluide en fait, c'est naturel.
On est plus dans l'épanouissement personnel que dans l'épanouissement financier.
Financier. Et alors du coup,
ça on est d'accord là-dessus.
Ça c'était ma deuxième question. Il y a une rencontre, il y a une idée, un projet, il y a une rencontre, l'envie de construire ensemble. Mais après, il y a la faisabilité aussi. C'est-à-dire que là, vous remontez. De Monaco, sans job, certes avec le titre de meilleur ouvrier de France, ça a dû vous aider à un moment donné aussi.
Tu peux, oui. Ouais.
Mais comment ça se passe concrètement ? Parce que vous allez toquer aux portes des banques, j'imagine. Parce
j'ai trouvé des associés. En fait, dans le boudoir, on est beaucoup d'associés. Ils ont tous mis un petit peu d'argent. Et puis l'histoire était partie, c'est on a été voir les banques, et puis voilà. Et puis,
il y a des gens qui ont cru en vous, ouais, et qui ont, ouais, cru...
Et après, c'est toujours le premier le plus dur.
Ouais.
Le deuxième établissement, c'était moins compliqué parce qu'on en avait déjà un, donc ça allait mieux. Puis si demain, il y en a un troisième, ce sera encore moins compliqué. Mmh. En fait, c'est toujours le même problème. Les banques vous prêtent de l'argent à partir du moment où vous avez de l'argent. Mmh. En fait, en gros, quand vous avez de l'argent, vous n'avez plus vraiment besoin des banques. Donc c'est ça le cercle vicieux, c'est qu'on a besoin des banques, principalement quand on s'installe. Mais le problème, c'est qu'on a zéro vécu, on n'est pas connu, on n'a rien. Aujourd'hui, vous tapez, bah voilà, vous l'avez fait, vous tapez sur Internet Arnaud Nicolas, vous pouvez trouver plein de choses sur moi parce que, c'est, voilà, il s'est passé des choses, la marmite a bouilli depuis. Mais au début, on n'est personne, quoi.
Et alors du coup, tout au long de votre parcours, quelles sont les principales difficultés, je dirais, que vous avez rencontrées
Au boudoir.
Ou de manière générale
Bah, les difficultés...
Pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
Les difficultés... Moi, c'est ma jeunesse, c'est le fait d'avoir eu le titre jeune déjà.
Ah, ça a aussi desservi.
Bah, moi non, mais l'image de certaines personnes, on va dire que...
On ne vous prend pas au sérieux.
Ouais,
d'accord.
Ça a duré un petit peu. C'est pour ça qu'en partant chez le nôtre, je me suis un petit peu sorti de mon métier.
D'accord.
Je me suis fait un peu oublier. Et ça a été un mal pour un bien. Et j'en suis revenu aujourd'hui beaucoup plus fort. Parce qu'aujourd'hui, je tiens... Voilà, j'ai pris la présidence du concours des meilleurs ouvriers de France. Donc, je suis revenu de façon vraiment forte dans ma profession avec des idées bien précises. Ça plaît et ça ne plaît pas, ça ne plaît surtout pas à certaines personnes, mais c'est pas grave.
On ne peut pas plaire à tout le monde, quel que soit le.
Et puis quand vous faites bouger les lignes, de toute façon, à partir du moment où vous faites bouger un petit peu les lignes, c'est naturellement un petit peu controversé. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça veut dire que tant qu'on en parle et que ça bouge, ça veut dire que notre métier continue à être vivant. Mais voilà, donc non, après des difficultés, j'en ai eu. Mais comme tout le monde, des petits soucis à gauche, à droite. Là, après le boudoir, c'est aussi l'histoire de ma vie, hein, parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. Mm-hmm. Le boudoir, si un jour je dois partir du boudoir, il y aura une petite larme parce que...
C'est votre bébé aujourd'hui, le boudoir.
Exactement.
L'autre établissement aussi.
Bien sûr, mais l'autre en plus, il porte mon nom. Mm-hmm. Donc l'autre est encore... C'est encore autre chose. Mais là où tout est né... C'est le boudoir.
C'est ici au boudoir.
Donc il faut pas l'oublier, quoi. Et puis bon, on est des sentimentales, hein, donc à un moment donné, vous savez, quand vous faites 75 heures, 80 heures par semaine dans un établissement, ça laisse
forcément
des traces.
Forcément, vous y êtes attaché.
Ça laisse des traces.
Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui pour réussir à travailler de cette façon-là, 75, 80 heures par semaine? Je crois que j'ai cru comprendre qu'il y a une notion qui est très très importante pour vous, c'est le partage.
Oui, le partage, moi j'ai besoin d'avoir de la transmission. Aujourd'hui, on me l'a donné, mais pas suffisamment, je trouve. Parce que c'était un petit peu à l'ancienne génération où tout était un petit peu caché. Fallait donner au compte-goutte. Aujourd'hui, moi j'ai besoin de transmettre à ce métier. Pour faire évoluer ce métier, j'ai besoin de transmettre énormément. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre profession. Alors, je sais pas un discours, moi j'ai 40 ans, mais aujourd'hui, quand j'en avais 20, 25, j'étais une éponge, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai besoin de retransmettre ça.
À votre tour de jouer un rôle important dans la vie de vos équipes, comme d'autres personnes l'ont été.
Je suis là, je leur transmets les choses, je les fais avancer et on avance ensemble.
Et au-delà de ça, pour moi, je parlais aussi du partage avec les clients.
Ah oui, enfin, bien sûr.
Pour vous, là...
Moi le partage, il est important. Expliquer aux clients pourquoi on fait ça aujourd'hui, dans quel objectif. Ils sont énormément à l'écoute, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens veulent savoir exactement ce qu'ils mangent.
Ce qu'ils mangent, comment ça a été fait, pourquoi. D'où ça vient, l'histoire. Ça donne une saveur.
Moi aujourd'hui, depuis la sortie du livre, pour leur rentrer un petit peu dans les détails, le sel nitrité, moi c'est un sel que j'ai toujours utilisé quand j'étais en apprentissage, mais c'est normal de mettre ça. Mmh. En fait, on m'a dit tiens, tu mets ça dedans. Ok. T'es en apprentissage, ok, on met du sel nitrité. Bah oui. Pourquoi ? Parce que ça maintient la couleur et ça conserve un peu mieux. Mmh. Ok. Il vous dit pas, oui, il y a des nitrites, ceci, cela, ça peut être... Donc, c'est normal. Et au fur et à mesure, bah, on apprend que, voilà, et puis bah, on apprend que ça, c'est pas tel père, et puis nous, on se rend compte que bah, ça, c'est pas spécialement porteur. Et puis là, en gros, on a une profession qui est là, waouh, il y a des choses à faire évoluer, parce que sinon, on va dans le mur. Donc, y a des prises de position. L'année dernière, on a sorti un livre avec mes deux mm-hmm. autres collègues qui sont à l'école hôtelière de Lausanne, Fabien Perron et Christian Segui. Mm-hmm.
Qui s'appelle
Le Grand Livre de la Charcuterie. Il n'y a pas un gramme de sel nitrité de conservateur dans ce livre. Mm-hmm. Et on a sorti un livre qui est très complet et qui marche plutôt bien, mais il y a zéro conservateur, zéro nitrite. Et aujourd'hui, moi, j'ai une charcuterie qui se veut sans sel nitrité. Mm-hmm. Je n'en utilise plus du tout. Mm-hmm. Là où on assaisonnait à 20 grammes de sel avant au kilo, aujourd'hui, je suis à 14 grammes. Donc, il faut évoluer un petit peu avec son temps, pas se dire, oui, de toute façon, ça a toujours été comme ça, je vois donc pas pourquoi ça changerait.
Okay. Justement, ça faisait partie d'une question que je voulais vous poser. Comment vous faites, parce que c'est un métier où finalement, vous devez en permanence, vous remettre en cause, il faut toujours innover, il faut toujours créer, chercher, découvrir des nouveaux produits, savoir les sublimer différemment. Enfin, vraiment, c'est un métier de création, hein, clairement. Complètement. Comment vous faites, vous, pour créer? Est-ce que vous avez un processus bien spécifique? Est-ce que ça vient en feeling? Enfin, comment vous êtes organisé pour toujours innover et créer?
Je pense que ça tourne toujours un petit peu, ça s'arrête jamais, en fait, hein, dans ma tête. Hein, donc, mais après, je m'inspire de beaucoup de choses, je m'inspire de ce que je vois à D'accord. l'extérieur.
Donc c'est beaucoup de, faut vraiment s'ouvrir, ouais. pas rester dans.
Je m'inspire de la cuisine, je m'inspire de la charcuterie, des choses que je vois par mes expériences diverses quand je vais au restaurant avec ma femme. Mm-hmm. Je m'inspire aussi de mes gars, de ce qu'ils ont envie de faire, de leur expérience,
mm-hmm. de ce que eux voient aussi.
Et puis après, je fais ma propre sauce qui me correspond. Mm-hmm.
Et alors concrètement, comment ça se passe? Vous faites des tests ici, au labo, vous goûtez oui. avec vos équipes?
Alors, nous, on est en mode petite structure. Alors, je m'explique, ça, petite structure, ça veut dire qu'on est toujours un petit peu en flux tendu. On n'a pas trop de temps de faire des tests, on sait que ça marche ensemble. Donc oui, on le fait, mais généralement, ce sont des tests qui sont amenés à être bons assez
rapidement.
Viables
rapidement.
Donc voilà, donc on est un petit peu dans cette démarche, mais oui, moi je fais, voilà, c'est ça, mais je sais pas, par exemple là vous me mettez devant une feuille blanche, vous me dites Arnaud, fais-moi une nouvelle recette, non, je sais pas faire,
d'accord.
J'ai besoin d'avoir une certaine pression, il faut que, en gros, plus j'ai la tête, plus j'ai de pression, plus j'ai de travail et plus j'ai de créativité,
d'accord.
C'est un peu bizarre. Mais je fais partie de ces gens qui marchent à la pression. Moi, si j'ai pas de pression, en fait, je m'ennuie.
D'accord.
Voilà, et quand je m'ennuie, je suis pas de bonne humeur.
Et en tout cas, ça, donc c'est beaucoup au feeling, en fait, au ressenti de ce que vous avez envie.
Énormément, c'est au feeling, c'est au moment, comme ça, c'est à l'instinct, c'est si j'ai vu un truc, tiens, hop là, j'ai une idée. Voilà, c'est pas programmé, je peux pas faire ça.
Ok. Ouais. Ouais,
okay. Même mon MOF, je l'ai pas fait comme ça, donc.
Okay. Quel type de management vous avez avec vos équipes, vos brigades?
Le management, moi j'ai une éducation professionnelle un petit peu à la dure. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je me suis toujours refusé de faire. Mm-hmm. Manager par la pression ou par une pression négative, je trouve ça complètement ridicule.
D'accord.
Aujourd'hui, on a besoin de gens autour de nous. Tout seul, on n'est rien. Il faut savoir être exigeant, tout en écoutant aussi les gens qui travaillent avec nous. Moi, ils savent très bien que je suis très exigeant. En même temps, je n'arrive pas dans une cuisine en mettant une pression négative.
D'accord.
On ne va pas commencer à mettre une pression aux gens alors qu'il n'y a pas lieu d'être. La pression, elle vient toute seule au moment du service, mm-hmm. ou dans la journée, si c'est en charcuterie. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et moi, l'idée, c'est vraiment... c'est une petite famille. Hein. Donc, j'en prends soin. Je ne suis pas simplement à leur demander, tiens, ça va, on en est où? La première question, c'est ça va, vous n'avez passé un bon week-end?
Mm-hmm. Il y a un climat de confiance, en fait, qui est instauré.
C'est indispensable. Moi, aujourd'hui, j'ai
ils ont pas peur du... Parce qu'on a un peu cette image-là, en fait, de l'extérieur. Le chef, il fait peur. Là, ici, c'est pas le cas. Enfin,
moi, vous savez,
c'est ce que je ressens ici.
Moi, il boude, en fait, quand je suis pas là. Non, mais c'est vrai.
C'est chouette, le chef revient de vacances ce
matin.
Ouais,
mais c'est vrai. D'accord. Ils sont contents de me voir. Enfin, je pense, ils sont contents de me voir. Il y a des fois, quand je suis pas là, parce que j'ai des obligations à gauche à droite, limite, ils me disent « Ah, bah, t'es pas là ce soir. » Ah non, ce soir, je m'occupe de mes enfants. Parce que c'est pareil. Aujourd'hui, moi, j'ai un métier qui me demande beaucoup de temps. J'ai deux petits garçons.
Deux enfants en bas âge.
Un qui a 6 ans et un qui a
9
mois.
Bientôt un an.
Ouais. 9 mois, voilà. Et moi, je veux pas que ces petits bouts-là m'appellent monsieur dans 6 ans. Donc, vous voyez,
c'est quoi la répartition aujourd'hui? Comment vous arrivez à gérer ça?
Le mardi soir, par exemple, moi j'ai ma femme qui est créatrice de robes de mariée, donc qui a son entreprise, deux entreprises dans le même foyer, c'est pas quelque chose de facile.
Ça nécessite un peu d'organisation, j'imagine.
Exactement. Et il faut pas léser l'un pour, enfin, faut pas qu'il y en ait un qui soit lésé par rapport à l'autre. Donc moi c'est pas, je suis prioritaire parce que j'ai ceci. Non, elle a une entreprise qui tourne bien, qui marche bien.
Ce qu'elle fait, c'est super. C'est aussi pour elle, voilà. Je crois. Ouais.
Je vais pas lui dire, écoute, c'est bien ton truc, mais tu vas vendre du jambon, tu vois, on va mieux gagner notre vie. C'est absolument pas ça l'objectif. Donc je lui dis, donc en fait, on a posé les choses. Quand je lui ai dit, j'ouvre un deuxième restaurant, elle m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai besoin d'une soirée dans la semaine, et le samedi, c'est ma grosse journée, tu t'occupes de tes enfants.
D'accord.
Après, si tu veux travailler 18 heures par jour le restant de la semaine, tu fais ce que tu veux.
Donc vous nous disiez le mardi soir, c'est le soir.
Demain soir, moi j'ai toute mon équipe dans les deux restaurants. Je passe toute la journée avec eux. Tout est calé, ils savent ce qu'ils ont à faire. Deux facteurs confiance qui fait que j'ai pas de soucis, c'est calé, tout ça. Bien sûr qu'il y a des contrôles que moi je surveille. Aujourd'hui, ils m'envoient des photos. J'ai mon chef ici, Esteban, il m'envoie une photo en me disant, tiens, est-ce que ça correspond? Ouais, c'est top, vas-y, c'est bon, on a validé des choses. Et ils ont
suivi. Mais il y a cette confiance qui permet de ne pas avoir peur, justement, de vous solliciter et de vous demander, de voilà, vous envoyer la petite photo.
Mais ils n'ont pas de pression négative.
C'est ça. Ils ne disent pas, oh là, je vais envoyer la photo, qu'est-ce que le chef va dire? Non, c'est vraiment, il y a cette confiance.
C'est indispensable. C'est indispensable. Pour tirer le meilleur des gars. Et moi, ils sont motivés. Aujourd'hui, ils sont motivés. Je les mets en avant. Pour eux, c'est génial. Quoi.
Bien sûr.
Et moi, tout
le monde est gagnant, en fait. Parce que eux progressent, avancent, viennent.
Moi, ils ont toutes mes recettes et tout. Ils ont tout.
Et ils vous le rendent bien, ouais.
Ouais. Ils ont toutes mes recettes. Ils peuvent tout utiliser. Ils ont carte blanche. Enfin, pour eux, c'est génial. Donc,
la répartition, le mardi soir, c'est le soir des enfants. Le samedi aussi.
Le samedi,
d'ailleurs, le boudoir est fermé, je crois.
Le boudoir est fermé le samedi.
Le samedi.
Mais par contre...
Ce qui est assez, d'ailleurs, un peu surprenant pour la restauration.
Ouais, mais c'est un établissement qui est dans un quartier d'affaires. Donc, ça fonctionne beaucoup du lundi au vendredi.
OK. L'autre établissement
est ouvert du lundi soir au samedi soir.
D'accord.
Donc, lui, par contre, a une grosse activité le week-end. Mais c'est pareil, le samedi, moi, j'ai des gens en place. J'ai des chefs qui sont en place, c'est des gens en qui j'ai confiance. Donc, certains vont me reprocher, vont me dire, oui. Voilà. Moi, un jour, Alain Ducasse m'a dit, Arnaud, il n'y a pas de chef indispensable. Personne n'est indispensable dans une cuisine. Et c'est vrai, moi, demain, il m'arrive quoi que ce soit, je me casse une jambe. Si je suis indispensable, s'il faut que je sois là pour que l'établissement tourne,
c'est qu'à un moment donné, il y a eu un loup.
Oui, après, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Moi, ce n'est pas ma façon de fonctionner. C'est comme ça, j'aime avoir des gens autour de moi. C'est pas toujours évident parce que la gestion aujourd'hui, du personnel et trouver de bonnes personnes, c'est pas quelque chose de facile. On a des fois des déceptions.
Bien sûr. Et alors, comment vous faites pour recruter? C'est quoi vos...
Donc, c'est au feeling, mais comme au tout feeling. Dans ma vie,
ouais,
en fait.
Okay.
C'est au feeling.
Faut vraiment que vous ayez envie de bosser avec la personne.
Voilà. Généralement, on me donne un CV, j'ai envie, écoute, moi, ton CV, je veux pas le voir. On va parler de la vie.
On va aller boire une bière, on va parler de la vie.
Ouais. Mais j'ai recruté comme ça certaines personnes, bien sûr. Alors après, je suis pas alcoolique. Hein,
non, bien
mais, sûr. Mais c'est tout simplement, on discute. Qu'est-ce que tu veux faire?
On est dans l'humain, donc ça peut pas juste passer par un bout de papier avec un CV et des expériences.
Un CV, ça, je m'en fous. Quoi.
C'est un motivé, un support.
T'es motivé, t'as envie, oui. Bon, on va faire. Viens avec moi, je vais t'emmener.
Je vais être exigeant, mais parce que voilà,
et je vais te porter. Et moi, j'ai énormément de gars aujourd'hui qui sont partis, qui font leur vie et qui aujourd'hui sont m'appellent régulièrement pour me dire voilà, chef, je suis là. Mmh. Et on continue à se suivre et l'histoire est belle comme ça parce que moi, c'était l'histoire de ma vie. J'ai travaillé 2 ans ici, 3 ans ici, 2 ans ici, tac, tac, tac. Donc en fait, j'ai pris ce que j'avais à apprendre mmh. et puis quand je commençais à tourner en rond.
Et du coup, là, c'est pareil avec les gens qui travaillent avec vous, c'est ça ? Bien sûr. Ils prennent ce qu'ils ont à apprendre.
Aujourd'hui, j'ai pas. Moi, si je prends l'exemple d'Esteban ici, j'ai pas. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est à vie avec moi. Mm-hmm. Ça veut dire que je suis beaucoup à l'écoute. S'il me dit, voilà, aujourd'hui, on en est là, ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans qu'il est avec nous, je vais lui dire, je vais faire, bon, écoute, t'arrives à un âge, qu'est-ce que tu veux faire ? Mm-hmm.
C'est quoi les projets
c'est pas, dans ta vie bon, tu restes là, t'es bien, t'es au chaud. Hein,
moi, tranquille. Ça me sécurise, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui gère, qui assure. Non,
qu'est-ce que tu veux faire mmh. Et la personne qui est derrière lui, eh ben, progresse. Et en fait, ils rentrent tous par la petite porte mmh. et ressortent tous plus ou moins chef de ma cuisine. Ouais. Après, il y a des passages qui sont plus courts. Mais on va dire que ce circuit-là, je l'ai déjà amené plusieurs fois à terme. Et c'est super sympa parce que... Ben voilà, et puis après, ils ont des compétences qui sont différentes, ils ont des façons de voir les choses qui sont différentes. Mes cuisiniers du boudoir sont complètement différents de mon équipe de la Bourdonnais. Les clients sont complètement différents, mm-hmm. les services sont complètement différents. Après, il y a des comparaisons qui s'installent entre les deux restaurants parce que c'est différent. Et c'est à moi de leur expliquer, oui, mais enfin bon, à la Bourdonnais, quand vous faites 60 couverts le soir, vous faites ça en 2h30, au boudoir, ils font ça en 1h15. Donc le travail c'est est complètement différent et c'est là que c'est super intéressant et aujourd'hui moi j'ai 2 équipes où ils vont au sport ensemble dans les 2 restaurants, ils sortent, ils font la bringue ensemble, enfin bon bref, et ça c'est génial, mmh. ça veut dire que j'ai réussi mon truc. Mmh.
Vous en créez vous des moments de convivialité comme ça avec vos équipes
On essaye, oui, bien sûr. Moi par exemple, que ce soit ici le vendredi soir ou là-bas le samedi soir, où je suis de temps en temps quand même, hein, enfin j'y ai été pendant longtemps quand même. Maintenant, j'y suis moins parce que je m'occupe de mes enfants, mais tous les samedis soirs, hop, ils boivent un verre, c'est nous qui arrosons un petit peu pour tout mmh. le monde. Il y a un moment de détente, mmh. on a un petit filet de ping-pong, on met ça sur une table, on joue au ping-pong, bref.
c'est bon enfant. On est des grands enfants de toute façon.
Mais on a besoin de ça, ouais, de ces moments-là, de relâche un petit peu. Mmh. Et ça n'empêche que quand il y a du travail, tout le monde est là, c'est carré. Je peux compter sur eux, ils sont toujours présents. Il n'y a pas de. Enfin, c'est un échange.
Est-ce que vous avez l'impression que, comme dans votre parcours, vous avez eu un peu des personnes qui vous ont inspiré, un peu des mentors, je ne sais pas si vous les appelez comme ouais. ça, mais vraiment des personnes significatives. Est-ce que vous pensez que vous aussi, vis-à-vis de vos équipes, vous jouez un peu ce rôle-là de personne mentor
pense, ouais. Moi, je ne m'en rends pas vraiment compte parce que les gens me disent de l'extérieur. J'étais encore avec mon cousin Julien, mm-hmm. qui ce week-end me dit « Arnaud, tu te rends pas compte de où tu te situes dans notre profession mm-hmm. ?» Non, en fait, moi j'ai ma petite routine, j'ai mon truc. Je sais qu'on s'entend bien avec mes gars, qu'il y a beaucoup de respect. Tant mieux si j'ai fait avancer les choses et si aujourd'hui je suis un peu cité en exemple. Mais alors c'est quelque chose qui me passe largement au-dessus de la tête.
Je suis pas en train de vous dire ça tous les jours.
Non, je me réveille pas en me disant, comme j'ai pu le lire récemment, tu deviens le petit prince de la charcuterie.
Ouais, non, c'est pas ce qui me
motive le matin.
Et pour autant, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à dire, parce que en tout début d'interview, vous m'avez dit la charcuterie telle qu'elle était, ça me convenait pas. Moi, j'avais envie d'en faire autre chose, de la faire évoluer. Enfin voilà, d'apporter quelque chose d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir réussi à obtenir ce que vous cherchiez à obtenir?
Ouais, on est dans la direction. Ouais. Ouais. Tout à fait. Okay. Donc aujourd'hui, on a fait avancer. Bah, vous voyez, tout à l'heure.
C'est pas grave, on est dans un resto.
Tout à l'heure, on a une réunion. Vous voyez, la table est dressée. Là, j'ai des charcutiers très influents qui sont dans une recherche et dans un. Bah, la réunion qu'on va faire juste après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a entrepris jusqu'à maintenant. Il y a Gilles Véraud qui vient, mm-hmm. Gilles Véraud qui est un des charcutiers stars de Paris, mm-hmm. Jean-François Deport, j'ai des professeurs, il y a au moins 3-4 meilleurs ouvriers de France qui viennent. On va se poser des questions, à savoir voilà, quelle orientation on donne, il faut qu'on soit unis pour avancer et quelle direction on donne à notre profession. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Il y a une prise de position, le sans conservateur. Est-ce qu'on crée un club? Est-ce qu'on crée une association? Comment est-ce qu'on finance tout ça? Donc oui, il y a un vrai. On est en pleine. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à la façon dont les gens se nourrissent, par rapport à ce qui est demandé. Aujourd'hui, les gens veulent savoir exactement ce qu'il y a, et heureusement, dans chaque produit. Moi, je ne conçois. Je suis devenu très très dur même. Et aujourd'hui, moi, que ce soit dans mes restaurants ou chez moi, il n'y a pas une tomate qui rentre pendant 8 mois de l'année chez moi. Alors, ma femme, des fois, elle me dit, tu me fais chier. Je fais, oui, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, en fait, quand elle va au restaurant, elle regarde la carte, elle devient aussi dure, pareil. Si ce n'est plus dur que moi. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter de croire que c'est normal de manger de la tomate au mois de janvier.
Respecter le...
Au mois de janvier, on va manger certains légumes, on va manger du potiron. Moi, mon petit, là, il a mangé du potiron, il a mangé du panais, il a mangé du topinambour. Hein, et tout s'est bien passé, quoi. On n'est pas obligé de leur faire de la courgette au mois de décembre. Donc, tout ça, il faut vraiment arrêter. C'est à nous, professionnels, lancer tout ça et d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils vont manger ça en ce moment. Et par contre, bah là, en ce moment, il y a des asperges. Alors, j'ai mon chef, il me dit, chef, on a des asperges en entrée, on a des asperges en dessert. Enfin, pas en dessert, mais en plat.
En plat.
Je leur fais oui, mais qu'ils en profitent. Ça va durer un mois et demi, mais dans deux mois, il n'y a plus d'asperges. Donc ça, et ça, on l'explique à nos clients. Et ils ont envie d'entendre ça au final.
Bien sûr,
et
même si au final, ils vous disent. C'est authentique.
Voilà, oui, mais moi, l'asperge, j'aime pas trop. Vous leur expliquez ça, ils vont faire ouais, bon, c'est vrai. On va manger de l'asperge parce que de toute façon, après, on passera à la tomate ou à la courgette. Quoi.
Et parce que s'il faut en manger, c'est maintenant, parce que c'est le moment où l'asperge, elle est sublimée.
Et puis, mangeons nos produits, mangeons français. Arrêtons de faire venir et de manger des tomates qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont ramenées par des charters. Catastrophe sur tous les points, ça. Donc, stop, mangeons. Alors, c'est pas spécialement que du bio, mais mangeons des circuits courts. Le petit producteur qui est à côté de chez nous, allons chercher, il y a des maraîchers partout. Faisons la promotion de notre patrimoine et arrêtons d'aller voir ce qui se passe à côté alors qu'on a tout en France. On a un pays, on a de tout. On a de tout.
Il faut juste savoir respecter
voilà.
ce que manger, la vie nous donne au moment où elle nous le donne.
Manger de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, complètement ridicule. Donc, voilà, on a des agneaux. Et manger moins de viande. Faisons des plats qu'à base de légumes. La viande, il faut que ça reste une notion de plaisir. Le poisson, c'est pareil. Comme je dis, si j'avais voulu gagner de l'argent, vraiment de l'argent, je serais rentré dans une certaine ligne de conduite qui m'a été appris, parce que moi, les charcutiers, et c'est là qu'on a un gros travail à faire, c'est que les charcutiers traiteurs, moi j'ai vu, et là je ne vais pas me faire que des amis, mais on a acheté des produits vraiment à bas coût pour pouvoir gagner de l'argent. Moi j'ai été élevé par rapport un petit peu à ça. Mais quand je suis passé en cuisine, je me suis dit waouh, attends, nous là, pourquoi il y a telle différence quoi. Et quand on goûte le truc, on dit ah ouais, en fait, c'est pas du tout pareil.
C'est pas ça.
Ça n'a rien à voir.
Presque pas le même produit en fait.
Non, ça n'a rien à voir. La Saint-Jacques, quand vous avez des Saint-Jacques en plein mois de juillet, c'est pas normal. Saint-Jacques, c'est l'hiver. C'est novembre, fin janvier, il y a des saisons pour les produits. Et quand vous mangez une Saint-Jacques fraîche, que vous ouvrez, que vous poêlez comme ça, que vous snackez, on est à des années-lumière de ce que j'ai pu manger, moi, quand on disait, fait les fameuses coquilles Saint-Jacques avec les Saint-Jacques congelées qui viennent. Donc oui, c'est un coût. C'est un petit peu plus cher. Mais ça, il y a un discours.
Il y a une histoire à
voilà.
raconter
et
derrière.
Et puis, on n'est pas obligé de manger que ça. Et puis moi, je fais aussi... alors là, on a un projet de boutique avec quelques... Vraiment... Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, j'ai eu besoin de faire de la... J'ai fait de la charcuterie, j'ai fait de la cuisine. Et là, je reviens peut-être à mes premiers amours qui est la boutique, mais avec une expérience et un projet. Et je me sens prêt. Marrant, ça a 40 ans, je me sens prêt.
Pareil, c'est l'âge où on est le plus épanoui.
Voilà. Mais du coup, je me sens prêt. Pourquoi ? Parce que je suis sûr de ce que je vais faire je suis sûr de ce que je veux faire.
Vous avez compris, en fait. Là, c'est bon.
Voilà. Ma promotion, je n'ai aucun intérêt à promouvoir... Enfin, ma plus-value, elle n'est pas dans la carotte râpée. Même si une carotte râpée, moi, dans ma boutique, demain, je n'ai pas spécialement envie de faire ça. Par contre, vous voyez, là, j'avais... Je servais avec un poisson, une salade de quinoa. Très tendance, les quinoa. On a du quinoa d'Anjou français maintenant. Donc,
la parmesan, salade... champignons. Je l'ai goûté. Je l'ai goûté.
C'est pas mal ça.
Ah là là, c'était juste exceptionnel.
Et ben, vous mettez juste à l'intérieur donc le quinoa, vous mettez une petite vinaigrette avec une huile fumée ou pas, des petits dés de parmesan, de l'estragon, d'accord ? Et si on veut s'enflammer un petit peu, un peu de truffe noire dedans. Mm. Et puis, mais juste ça. Vous voyez, un petit verre de vin plutôt léger à côté. Mm. Mais moi, ça me suffit. Mm. Je mange ça le soir, je suis heureux. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Ça me suffit largement. J'ai pas besoin de manger une entrecôte. Mm. Non. Et ça, c'est ça que les gens veulent entendre. Dans un contenant qui est en carton, où il y a une histoire, c'est fini le plastique, il faut arrêter le plastique, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et ça va être des questions que je vais poser tout à l'heure. Messieurs, tous les plastiques que vous avez, les super packaging que vous avez dans vos boutiques, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il y en a qui vont pas être contents en sortant de la réunion. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, les choses sont dites. Et on avance. Et on est des gens intelligents, donc du coup, on va faire en sorte que ça évolue, et on va faire en sorte que... Ben voilà, on avance, on avance intelligemment. Mais je suis vraiment en adéquation avec ce que je veux.
Ce que vous avez envie, voilà. Qui vous êtes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup me disent, mais Arnaud, pourquoi t'as pas ouvert une... En fait, si j'avais ouvert une charcuterie directement, je serais rentré dans un système, il y aurait une grande frustration. Aujourd'hui, je suis épanoui, je suis pas frustré, en me disant, ça je l'ai pas fait. J'ai fait de la cuisine, ça m'a apporté énormément de choses. Je ne suis pas persuadé que j'aurai toujours des restaurants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'aura permis d'avoir une certaine idée. Et puis, j'en avais besoin. Mm-hmm. J'en avais besoin à un moment donné. J'en avais besoin pour devenir le charcutier que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir un petit peu à mes premiers amours, qui est la boutique. Et proposer à mes futurs clients l'idée que je me fais de la charcuterie de demain.
D'accord, ok.
Sans tout révolutionner. Une terrine grand-mère, comme je l'ai appris en apprentissage, restera une terrine grand-mère.
Bien sûr.
Je révolutionne pas. Je ne mets pas, oui, la terrine grand-mère, je vais tout changer, je vais vous mettre du caviar à l'intérieur. C'est complètement ridicule. Mm. Les gens, ce qu'ils veulent manger, c'est une terrine grand-mère, mais bien faite, sans sel nitrité, sans conservateur, fait au quotidien. Voilà, on sait d'où ça vient, on sait d'où viennent nos viandes. Moi, c'est la première chose que je vais mettre dans ma boutique, si demain j'arrive à le faire. La pancarte, avec ici, nous utilisons principalement que des produits français issus de l'agriculture biologique, mais pas que. En circuit court aussi, parce qu'il y en a qui font non plus pas que du bio, mais qui font très bien. Voilà, pour des raisons différentes. Parce que acheter du bio, moi, ma femme est fan de bio, le bio. Mais quand moi je vais avec mon œil un peu critique dans les magasins bio et que je vois des courgettes en plein mois de décembre qui viennent du Maroc, laissez-moi mettre un petit doute sur la qualité de ce bio et l'intérêt d'acheter des courgettes bio qui viennent du Maroc ou d'autre part, on s'en fout. Donc là-dessus, ça a été des grands sujets de discussion, ça. Vous voyez ?
J'imagine.
Voilà.
Aujourd'hui, si on prend un peu de recul sur votre parcours, votre expérience et votre vécu, quels conseils vous pourriez donner à des gens qui auraient envie de se lancer, jeunes ou moins jeunes, peu importe, parce que finalement on peut se lancer à tout âge. Quel enseignement vous avez tiré de votre parcours et quels conseils vous auriez envie de donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une aventure comme la vôtre, dans la restauration de manière générale ou en tout cas dans l'entrepreneuriat ? C'est quoi vos grandes leçons de vie ?
Moi, je pense qu'il faut... moi, j'ai la chance d'avoir fait jusqu'à maintenant tout ce que j'avais envie de faire.
Okay.
Est-ce que c'était le meilleur moment ? Est-ce que j'ai fait toujours les bons choix ? Je ne pense pas. Mais j'avais besoin de le faire, je l'assume et je l'ai fait. Et ça a été l'histoire de ma vie.
Voilà. C'est-à-dire que même les mauvais choix, enfin ce que vous considérez peut-être être des mauvais choix aujourd'hui, finalement, ils ont été utiles ?
Ah, bien sûr.
Ok.
Mais vous savez, on a l'habitude de dire que c'est dans les mauvaises expériences qu'on apprend le plus de choses. Mm. C'est vrai. Quand ça va bien, on ne se pose pas trop en question, on ne se remet pas trop en question. Quand ça ne va pas, c'est là qu'il faut remettre les choses. Donc moi, je pense qu'il faut aller au bout de ces idées. Maintenant, ce n'est pas évident. Il ne faut pas croire qu'on va lancer un projet. Oui, moi, je vais faire mon truc.
Et puis, j'aimerais bien, même si je ne prends pas toujours les bonnes décisions. Non,
c'est beaucoup de sacrifices.
C'est des enjeux, bien sûr.
C'est des sacrifices.
En tout cas, il ne faut pas avoir peur de s'écouter, de se respecter, de faire ce qu'on a envie de faire.
Il ne faut pas, rentrer spécialement dans des schémas qu'on dit, voilà, si tu veux être charcutier, tu fais ça, et puis l'objectif, c'est que tu aies une boutique dans 10 ans.
Okay.
Non, vous pouvez être aussi très bien, vous pouvez être épanoui dans un hôtel, à être chef dans un hôtel, vous pouvez faire de la formation aussi, peut-être qu'il y en a, ils se retrouvent plus dans la formation. Bon voilà, il faut
s'écouter.
Il faut s'écouter.
Et pas avoir peur de, quand même malgré tout, prendre des risques, mais en tout cas de pas avoir peur de prendre des décisions et peut-être à un moment donné de pas prendre les bonnes.
Non.
Ce qui est important, c'est comment on rebondit derrière sur ces décisions-là.
Donc l'idée, c'est de vivre en accord avec soi-même. Moi, je pense que la plus grosse des... la sensation la plus douloureuse, c'est un peu la frustration, quoi. Moi, je suis quelqu'un des fois où je suis fatigué, j'en ai marre. C'est fatigant.
Vous avez déjà eu envie de baisser les bras ?
Oui, bien sûr.
Ok.
Bien sûr. Il y a des fois où je me dis, j'arrête tout, là. Je prends une place dans un hôtel et puis... je vais me la couler douce, mais j'aurai moins de soucis, moins de contraintes.
Ça sera autre chose.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et qu'est-ce qui se passe alors finalement à ce moment-là ?
Après, il y a la réalité.
Il y a la réalité qui revient, et le
naturel qui revient.
Et finalement, c'est pas ça.
Moi, ce matin, je reviens, là, je suis un peu perdu. Ça allait pas trop, je suis rentré, et je vais vous dire honnêtement, je suis rentré quand j'ai vu ce qui s'est passé sur Paris.
Parce que pour resituer dans le contexte, on est lundi, il y a eu les événements du 16 mars,
exactement,
samedi,
sur Paris
avec les gilets jaunes.
Au bout de ma rue, j'ai une banque qui a brûlé où une femme a failli périr avec son enfant. Et moi, quand je vois qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, je n'y arrive pas, j'ai mal pour mon pays, j'ai mal pour ma France, j'ai mal pour toutes ces valeurs dont j'ai besoin et qui me motivent au quotidien. Donc quand je vois ça, je peux vous dire que j'avais pas envie de rentrer. J'avais envie de rester dans la montagne là et faire des tartiflettes peut-être. Et puis au final, je me dis, écoute, laisse tomber, pense à toi. Après, c'est pas ma vie. Mais parce que j'ai besoin de ça, Mais quand je vois ça, ça m'a énormément perturbé. Ouais, ça me perturbe déjà depuis un moment, mais là, je suis vraiment... je suis inquiet, parce que énormément de business, énormément de personnes vont avoir des concepts et des établissements qui vont mourir à cause de ça, parce que c'est la vérité.
Bien sûr, il y a une réalité économique malgré tout derrière ça. Ouais.
Cela, on dit oui, mais c'est une catastrophe économique ce qui est en train de se passer.
Bien sûr.
Et puis voilà, mais je vois, ils ont brûlé le Fouquet's. Moi, je le connais, le chef du Fouquet's.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Ouais, donc oui, il y a des moments où c'est plus compliqué.
Mais le naturel revient parce que...
Je suis arrivé ce matin, ils avaient tous le sourire, ils étaient contents. Ouais.
Et comme vous êtes en phase avec ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire, finalement, même si à un moment donné, on peut avoir un petit coup de mou parce qu'on est fatigué, parce que... contexte difficile, comme de toute façon vous êtes en phase avec vous-même, du coup le naturel revient et reprend le dessus.
On a toujours, on a des phases qui sont plus dures. Vous savez, moi j'ai l'exemple aujourd'hui, moi il y a des gens qui me disent ça va, vous êtes marrant. Ils se rendent pas compte travail, de l'investissement. Moi, ma femme, quand elle a commencé à faire ses robes de Marion, ses créations, on prenait les rendez-vous dans notre appartement. Ça veut dire que tous les samedis matin, on vidait sa chambre, enfin notre chambre, pour en faire une salle d'essayage.
D'accord.
Enfin, pas compte, on sortait le lit, tout, on mettait tout dans le salon. Moi, j'avais mon premier enfant qui avait 1 an, j'étais là, dans le salon, avec un bordel pas possible. Et puis après, les gens me disent, mais pour vous, ça a toujours bien roulé.
C'est mérité, quoi.
Il faut être conscient aujourd'hui que avoir des projets, c'est super. C'est super. Par contre, il faut pas croire que c'est quelque chose de facile. Ça, c'est quelque chose.
Il faut être prêt à faire des sacrifices, à bosser. Voilà.
Alors après, les sacrifices, il faut aussi savoir. On n'est pas des machines. D'où
l'importance de savoir s'écouter et d'être en cohérence avec ce qu'on fait, parce que sinon, à un moment donné, on se fait violence et ça fonctionne plus.
Moi, le samedi, comme je vous dis, je travaille beaucoup. Ce matin, je peux me lever, en moyenne, je me lève à 5h30, 6h, je me couche, il est 1h du matin. Vous voyez, ça ne me laisse pas énormément de temps de sommeil. Mais le samedi, je suis avec mes enfants, je coupe. On coupe un petit peu pour revenir mieux. Et encore, il faudrait que je fasse du sport, plus de sport que ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'en ai besoin. Et aujourd'hui, moi, mon objectif n'est plus... et c'est ça qui est drôle, c'est que je discute avec des copains restaurateurs qui ont mon âge un petit peu plus, et qui sont chefs dans des palaces et tout, et qui me disent... Il y en a un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça très, très pertinent, et c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, on est des cuisiniers, Mais à un certain niveau, on se doit de réfléchir à la cuisine et pas spécialement de la faire au quotidien. Donc moi aujourd'hui, ma plus-value, elle n'est plus à éplucher ou poêler un poisson.
Oui, d'accord.
Ça, c'est
elle
de transmettre. Mais par contre, c'est de réfléchir.
Concevoir.
Au demain, à demain, à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire comme cas, respecter mon idéologie et tout ça,
la ligne
de conduite. Et elle est là. Il est là,
donner du sens
dedans
à ce qu'on fait et pas faire. Quoi.
Et de temps en temps, moi j'ai besoin, j'ai besoin de toucher les produits parce que c'est mon truc, donc je m'éclate quand je le fais. Elle n'est plus là, ma plus-value, moi.
Bien sûr.
Ma plus-value, elle est dans la réflexion, dans le voilà, demain, dans qu'est-ce que je vais faire, les gens que je vais...
La stratégie, la vision.
Les gens, l'idée que je vais apporter un petit peu de ma profession et de tout ça. Quoi. Okay. Voilà.
Bon, ben merci beaucoup pour tous ces partages. Donc l'actualité, là, c'est quoi la suite, à quoi on doit s'attendre
L'actualité, c'est certainement cette fameuse petite boutique, normalement,
d'accord,
qui devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année.
D'accord. Bon,
avec mon idée, ma ligne de conduite un petit peu.
D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Pour les gens qui vous écoutent et qui voudraient vous suivre ou voire même vous contacter, comment c'est possible sur les réseaux sociaux, sur
les réseaux
le net,
sociaux, comment, oui, comment on est sur Facebook, on est sur Instagram.
D'accord.
Et
je mettrai les liens
les
notes de l'épisode.
Et,
okay.
Et sinon, après...
Si on a des questions à vous poser, est-ce que on peut vous contacter,
ouais, directement au restaurant, okay. Principalement à la Bourdonnais, ou là où je
d'accord,
suis.
D'accord, vous êtes le plus souvent.
Bah, le soir et tout, ouais, c'est plus facile en fait,
d'accord,
là-bas.
Okay.
Et puis voilà, sinon je reste
accessible,
disponible.
Vous êtes
exactement,
accessible.
C'est important.
Bon, super.
Important.
Ben, merci beaucoup pour cet échange, vraiment
plaisir.
Très enrichissant. Merci de m'avoir accueilli encore dans ce très bel environnement. Et puis on va suivre de très près le projet de boutique.
Et parlons de la charcuterie, c'est parfait.
Oui, tout à fait. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Rebonjour à tous. J'espère que cet échange avec le chef Arnaud Nicolas vous aura inspiré et vous aura donné peut-être envie d'une part de découvrir la charcuterie différemment et d'autre part d'avancer dans vos projets. Vous le savez, à chaque fin d'épisode, je vous propose une clé, c'est-à-dire un outil plus théorique et plus pratique sur le thème de l'interview pour que vous puissiez passer à l'action et amorcer des changements dans votre vie. L'outil que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui est quelque chose d'à la fois très simple et à la fois complexe. Simple dans l'énoncé de ce que je vais vous proposer de faire, mais peut-être complexe dans la réflexion que ça va générer chez vous. Il s'agit en fait d'une question à laquelle je vous propose de répondre et qui reprend tout simplement ce que nous a partagé Arnaud Nicolas. Il nous a expliqué à quel point, tout au long de son parcours, il s'est focalisé sur le fait de tenir compte de ce qu'il a envie de faire, d'être en phase avec lui-même, avec ses envies, avec ses valeurs, avec ses principes et sa vision des choses. Je vous propose donc, si vous êtes à un moment de votre vie professionnelle où vous avez envie de changement, de nouveau ou de renouveau, c'est de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi professionnellement ? Autrement dit, qu'est-ce qui fait du sens pour moi ? De quoi j'ai envie ? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? Qu'est-ce qui est important pour moi, ce qui est fondamental dans ma vie professionnelle ? Est-ce qu'il s'agit d'être autonome, d'exprimer ma créativité, de communiquer, d'être en compétition, de prendre des risques, de faire de la recherche, d'innover, de travailler en équipe, de prendre des décisions, d'être un influenceur, d'exprimer des idées, de vendre, de négocier, d'organiser, de fabriquer, de créer, de résoudre des conflits. Bref, laissez parler vos émotions et vos ressentis. Pour faire cet exercice, il est important de ne pas vous baser sur ce que vous savez faire aujourd'hui à l'instant T, mais plutôt sur ce que vous avez envie. C'est un exercice que je fais souvent réaliser lorsque j'accompagne des personnes en questionnement sur leur avenir ou leur orientation professionnelle, et il est vraiment la base de toute réflexion et de toute action et toute prise de décision pour la suite. À cette question, il n'y a bien entendu pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a simplement votre ou vos réponses qui sont les bonnes pour vous, si vous y répondez sincèrement et honnêtement et dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Une fois que vous avez une ou plusieurs réponses à cette question, pour avancer et prendre des décisions, veillez à tenir compte de ces réponses. Et comme le disait Arnaud, même si vous prenez une décision qui à moyen-long terme ne s'avérera peut-être pas être le bon choix, ne vous flagellez pas pour autant, car vous aurez pris cette décision parce qu'elle vous semblait être la bonne à ce moment-là et dans ce contexte en particulier. Il n'y a en réalité pas de mauvaise décision en soi, il n'y a que des opportunités d'apprendre ou de progresser.
En complément de ce travail, je vous renvoie à deux choses. Sur mon site internet, vous trouverez également du contenu et des fiches pratiques dans la rubrique « Les boîtes à clés » sur le thème « Le changement » qui peuvent être un complément à ce que nous venons de voir. Et je vous renvoie aussi à l'épisode 6 de ce podcast avec l'interview de Julie Dubois-Dumont dans lequel je vous propose de réaliser la liste de vos rêves. Vous pouvez également réaliser cette liste à titre professionnel et regarder ensuite ce que ça donne, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, que faites-vous ressortir comme point commun de ces rêves et de la réflexion que vous aurez menée aujourd'hui. Voilà pour ce 8e épisode. Encore une fois, je vous invite à le partager, à me faire vos feedbacks. Pour me contacter, vous trouverez toutes mes coordonnées sur le site www.cbcoach.fr ou sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook CBCoach ou sur Instagram sous le pseudo CBCoach51. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de cette mini-série. À bientôt !